Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Avec foi, la Vierge Marie écoute la parole de Dieu, l'accueille, la proclame, la vénère, la distribue aux fidèles comme pain de vie. À sa lumière, elle scrute les signes des temps, interprète et vit les événements de l'histoire. Amis auditeurs, bonjour. Cette affirmation de Saint Paul VI nous aide à mieux réaliser à quel point la Vierge Marie veille sur nous en ces temps si particuliers que nous vivons. Et parce que c'est une mère qui nous aime, elle ne reste pas insensible à la douleur du monde et souffre des péchés commis par ses enfants sur la terre. Cette souffrance s'est particulièrement vue dans les événements d'Akita, une ville du Japon dans laquelle une statue de Notre-Dame a littéralement pleuré 101 fois aux yeux des Japonais et du monde. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame. Pour parler de ces apparitions d'Akita, j'ai la joie d'accueillir Hubert de Mestier. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Après avoir mené avec succès une carrière professionnelle en Asie orientale, vous avez été professeur invité dans plusieurs universités japonaises. Vous êtes président d'honneur de la Chambre du commerce et d'industrie du Japon et vous avez écrit Notre-Dame d'Akita, paru aux éditions du Laurier en 2022. Hubert, comme d'habitude, lorsqu'il s'agit d'apparitions, Notre-Dame apparaît à une personne en apparence faible et pauvre. Et ici, c'est une religieuse sourde et d'origine bouddhiste. Racontez-nous l'histoire de Sœur Agnès Sasagawa.
Merci. Alors, Sœur Agnès Sasagawa est décédée donc, le 15 août 2024, il y a quelques semaines, le jour de la solennité de l'Assomption. Alors, il faut d'abord savoir un peu qui était Agnès Sasagawa pour mieux comprendre tout ce qui va se passer. En fait, elle avait toujours, presque toujours été d'une santé très fragile. À 19 ans, suite à une mauvaise opération de l'appendicite, elle fut frappée d'une paralysie du système nerveux central, donc elle ne pouvait plus se déplacer. Et ensuite, pendant 16 ans, elle alla d'hôpital en hôpital au Japon, en particulier, finalement, dans un établissement catholique où l'état de sa maladie put s'améliorer grâce aux soins très dévoués donnés par une infirmière catholique, ce qui permit à la future, d'ailleurs, Agnès, qui était bouddhiste alors, de faire ses premiers pas dans la religion chrétienne. Elle sentit très rapidement le désir de se placer au service de Dieu et du prochain, et elle demanda à recevoir le baptême. Ce faisant, c'était pas facile, elle dut vaincre les réticences de sa famille, modeste, bouddhiste et traditionnelle. Mais elle y parvint, famille qui d'ailleurs était restée très, très attentionnée pour elle. Alors, elle s'attacha au service d'une paroisse et elle devient catéchiste. Mais au bout de 4 mois, elle dut à nouveau être hospitalisée parce qu'elle rechuta. Et dans le coma, son état était jugé désespéré. Mais on lui fit boire de l'eau de Lourdes. Et elle reprit connaissance. Et ses membres figés retrouvèrent leur mobilité.
Grâce à l'eau de Lourdes.
Grâce à l'eau de Lourdes. C'est extraordinaire.
C'est miraculeux.
Ben oui. Alors, en 1979, elle était résolue à tout abandonner, dans la société. Elle voulait complètement s'occuper uniquement de la religion, de services religieux. Elle entendit parler des servantes de l'Eucharistie. C'est un ordre récent, d'ailleurs, à cette époque-là. Et elle put y entrer grâce au soutien de Mgr Ito, qui était évêque du Niigata. Alors, le diocèse du Niigata comprenait également les environs de la ville d'Akita, c'est un très grand diocèse, et qui était également le fondateur de cet institut des servantes de l'Eucharistie. En fait, le nom réel est un peu plus long, c'est servante du Sacré-Cœur de Jésus et de l'Eucharistie, et de la Sainte Eucharistie. Alors, l'Institut des Servantes de l'Eucharistie est dédié à la Sainte Vierge. Et plusieurs membres de cette communauté, à cette époque, c'est une communauté qui est répartie sur plusieurs sites, surtout dans cette province de Niigata Akita, ils avaient une dévotion particulière pour la Vierge de tous les peuples.
D'Amsterdam.
Amsterdam.
Ça marche.
Et en fournissant une image représentant cette Vierge à M. Wakasa, un artiste connu, local, celui-ci fabriqua une belle statue en bois d'environ 67 cm de haut, si ma mémoire est exacte. Et cette statue représente la Sainte Vierge qui est debout sur le globe terrestre et avec une croix derrière elle. Et elle baisse, elle étend les bras, ses mains vers le bas. C'est assez important pour ce qui va suivre. Alors, la belle statue, cette magnifique statue en bois, fut placée dans la chapelle du couvent de Yuzawadai, à côté de l'autel. Et en 1973, Sœur Agnès, qui était donc d'une santé très fragile, sentit brusquement une régression de l'ouïe dans ses deux oreilles. Les médecins qui ont été consultés constatèrent une surdité totale et inguérissable.
Donc elle guérit une première fois grâce à l'eau de Lourdes, et ensuite elle rechute
dans la surdité. Elle rechute, curieusement. Alors elle dut apprendre à lire sur les lèvres, parce qu'elle était devenue complètement sourde. Les sœurs, pour la dépanner, pour la recueillir quand même mieux, les sœurs de l'Eucharistie décidèrent alors de l'accueillir dans le couvent de Yuzawadai, donc qui est à une vingtaine, je viendrai dessus plus tard, une vingtaine, je pense à une vingtaine de kilomètres, c'est à peu près une demi-heure d'Akita, un peu à l'écart de la ville. Hein, donc ils l'accueillirent dans un couvent où elle serait mieux logée, quoi, et où pourrait mieux s'occuper d'elle. Alors elle arrive au couvent en mai 1973, retenez bien, vous allez voir ce qui va se passer, en mai 1973, remerciant le Seigneur pour la joie et le soulagement que cette nouvelle vie va lui apporter. Là-dessus, le 12 juin 1973, alors qu'elle priait devant le tabernacle, seule dans la chapelle, une lumière éblouissante jaillit soudainement du tabernacle. Alors, très, très impressionné, ne savait pas trop quoi faire, donc Sœur Agnès se prosterne, incapable de relever la tête, et puis... Ça disparaît. Le lendemain, les mêmes rayons lumineux émanent du tabernacle. Il en parle à sa supérieure. C'est un petit groupe de deux sœurs. Il était simplement 7 ou 8. Hein. Elle en parle à la supérieure qui lui dit de garder la chose pour elle et de n'en point parler. Et le 23 juin, donc vous voyez, c'est quand même assez proche. Hein, le 23 juin, Monseigneur Ito, l'évêque de Niigata, vient au couvent pour la fête du Sacré-Cœur. Et après la messe du matin, Sœur Agnès reste dans la chapelle, la lumière jaillit à nouveau du tabernacle, alors elle se confie à Monseigneur Ito, l'évêque, qui lui recommande de n'en parler à personne et de continuer sa vie sans rien changer.
On a là le premier phénomène mystique et surnaturel,
oui.
Et ça ne va pas s'arrêter là.
Ah non, ça ne va pas s'arrêter là, vous allez voir. Donc le 29 juin, dans la chapelle, alors qu'elle prend son chapelet pour dire le chapelet, une personne mystérieuse, une femme, très jolie femme, apparaît soudain à sa droite et récite le chapelet avec elle. Cette personne, à la fin de chaque dizaine de chapelets, lui conseille d'ajouter le texte suivant : Ô doux Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. C'est très curieux, parce que cette prière, enseignée par la Vierge aux enfants de Fatima, c'est exactement la même que ce que l'ange venait de lui dire. C'est la même prière. Alors que Sœur Agnès n'avait jamais entendu parler probablement de Fatima et elle ne connaissait pas du tout tout ça, hein, quand même assez curieux. Donc là-dessus, suite à plusieurs apparitions successives, Sœur Agnès comprit que la personne qui lui apparaissait à sa droite était son ange gardien.
D'accord, ce n'est pas la Vierge Marie, c'est son ange gardien.
C'était son ange gardien.
Super.
Alors, le 30 juin, là, vous voyez, ça se rapproche. Hein, le 30 juin, en sortant de la chapelle, Sœur Agnès découvrit au centre de la paume de sa main gauche deux égratignures en forme de croix. Mais c'est assez grand, c'est une qui fait 2 cm et l'autre 3 cm. Hein. Peu à peu, la douleur devient intense, elle souffrait beaucoup. Mais comme elle était très timide, elle hésitait d'en faire part à ses consœurs. Plusieurs jours ensuite, elle avait mal, son ange gardien, qui apparaissait régulièrement, lui dit « Ne crains pas, ne prie pas seulement à cause de tes péchés, mais en réparation de ceux de tous les hommes. Le monde actuel blesse le cœur de notre Seigneur par ses ingratitudes et ses injures. La blessure de Marie est beaucoup plus profonde et douloureuse que la tienne. » Le 15 juillet 1973, premier message de Marie.
D'accord, donc dans un premier temps, on a ces rayons lumineux qui sortent du tabernacle.
Oui.
Ensuite, on a des apparitions de l'ange à côté de Sœur Agnès,
absolument,
de l'ange gardien.
Oui.
Et ensuite, c'est la Vierge Marie qui s'adresse
elle-même
directement à Sœur Agnès. Et alors, dites-nous, que dit la Vierge Marie ?
Alors, d'abord, c'est la statue. La statue, cette fameuse statue dont je vous ai parlé il y a 3 minutes, semble un peu comme si elle prenait vie. Et donc, bien que sourde, hein, je répète que Sœur Agnès était totalement sourde, elle entend une très belle voix lui dire « Ma fille, je résume, hein, tu as bien fait en abandonnant tout pour me suivre. L'infirmité de tes oreilles est-elle pénible ? » La Sainte Vierge s'occupe d'elle. « Elles guériront, sois sûre. La blessure de ta main, est-ce que la blessure de ta main te fait mal ? Prie en réparation des péchés de l'humanité. » Puis plus tard, la Sainte Vierge ajoute « Prie beaucoup pour le pape, les évêques, les prêtres. Depuis ton baptême, tu as toujours prié fidèlement pour eux. Continue de prier beaucoup. Transmets à ton supérieur, Monseigneur Ito, ce qui s'est passé aujourd'hui et obéis-lui dans tout ce qu'il te dira. » Une fois, je répète, n'oublions pas que Sœur Agnès était complètement sourde. Elle entendait son ange gardien comme la Sainte Vierge par l'intérieur, de l'intérieur.
Dans ce premier message, la Vierge Marie se soucie de Sœur Agnès et vraiment compatit,
oui,
avec elle. Et ensuite, il y a deux autres messages, je crois.
Oui, il y a deux autres messages. Alors, ce premier message, c'est une sorte d'entrée en matière. La présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, parce que dans un moment, la Sainte Vierge insiste, au cours de ce message, sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Clairement, elle le dit clairement. Et le 6 juillet, donc quelques jours après, Sœur Agnès remarque sur la paume de la main droite de la statue de la Vierge une marque noirâtre en forme de croix, un peu comme celle qu'elle avait dans sa propre main. Tous les consœurs de Sœur Agnès observent cette marque également, et la main de la Sainte Vierge saignait. Mais les gouttes de sang, donc, s'arrêtaient, ne tombaient pas par terre. Hein ? Alors que vous verrez plus tard que les larmes, par contre, tombaient sur le sol. Alors, la blessure de Sœur Agnès la faisait beaucoup souffrir, particulièrement du jeudi soir au vendredi soir. Comme c'est souvent le cas pour les stigmatisés. Alors, Monseigneur Ito, donc l'évêque d'Inigata, régulièrement informé, continuait à diriger Sœur Agnès et à lui prodiguer ses conseils. Il avait lui-même assisté au saignement de la Sainte Vierge. Le 27 juillet, donc tout ça se suit, hein, les saignements de la main de la statue de la Vierge recommencent. Sœur Agnès souffre beaucoup et son ange gardien lui apparaît à nouveau et lui dit que ses souffrances sont terminées ce jour. Et il lui demande de graver profondément en elle la pensée du sang de Marie versé pour demander notre conversion, pour demander le prix en réparation des ingratitudes et des outrages envers le Seigneur. Et il lui recommande de tout rappeler à son supérieur et d'observer ses directives.
Amis auditeurs, nous n'en sommes qu'au début de cette histoire. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous allons continuer sur ces phénomènes surnaturels d'Akita. Je vous donne rendez-vous juste après la pause. Amis auditeurs, nous sommes en train de discuter des apparitions d'Akita avec Hubert de Mestier et vous venez d'entendre une bande musicale du film de la Passion du Christ de Mel Gibson, ce moment où la Vierge Marie voit son fils qui est en train de porter la croix et se précipite vers lui pour tenter de le consoler. Hubert, nous en sommes restés à la fin du premier message. Il y a encore deux messages. Oui. Dites-nous ce deuxième message de la Vierge Marie au monde entier.
Alors, le 3 août, donc peu après, en 1973, sœur Agnès, qui était sourde, donc entend à nouveau la voix indicible d'une indicible beauté, hein, celle de la Sainte Vierge, et qui lui dit « Beaucoup d'hommes affligent le Seigneur, donc je cherche des âmes pour le consoler. Un grand châtiment pourrait être infligé à l'humanité entière parce que le Père n'est pas content. Je suis intervenu pour apaiser le courroux du Père. Donc, il faut faire prière, pénitence, sacrifice courageux pour adoucir la colère du Père. Et pour toi, dit-elle, toi, sœur Agnès, pauvreté, chasteté, obéissance. » Et puis, le 29 septembre, la plaie sur la main de la statue de la Vierge a complètement disparu. Alors, il y a eu un troisième message. Le troisième message, c'est le 13 octobre 1973, où encore, donc c'est pas très longtemps après, hein, août, septembre, octobre, c'est à peine un mois après, quoi. Agenouillée seule dans la chapelle, le 13 octobre, sœur Agnès entend à nouveau la voix de la Sainte Vierge qui lui dit « Si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. Ce sera un châtiment plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Les seules armes seront le rosaire et le signe laissé par le Fils. Récitez chaque jour le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. L'action du diable s'infiltrera partout, même dans l'Église au plus haut niveau. Priez et accomplissez des œuvres de réparation. » Je remarque au passant que Marie avait fait, la Sainte Vierge avait fait les mêmes recommandations à Fatima. Alors maintenant, on va passer aux lacrymations.
Bien sûr, donc tout d'abord, ces apparitions de l'ange gardien, ensuite les messages de la Vierge Marie, et ça ne s'arrête pas là, puisque donc, la Vierge Marie a donné ces trois messages, mais elle va en quelque sorte confirmer ces messages qui sont bien d'origine surnaturelle par d'autres phénomènes surnaturels qui sont les lacrymations. Dites-nous en plus sur ces lacrymations.
Alors, le 4 janvier 1975, les sœurs de Yezawadai découvrent que la statue de la Sainte Vierge pleure. Alors, les larmes, parfois abondantes, parfois c'est simplement deux ou trois larmes, apparaissent au fur et à mesure des jours, parfois plusieurs fois par jour. De très nombreuses personnes ont été témoins de ces lacrymations. Il y a eu même parfois 50, 60, 100 personnes. Hein. Il y a même eu des émissions de télévision. Les télévisions ça a pu être, ont pu prendre les lacrymations. Comme précédemment pour le sang qui sortait de la main de la statue de la Vierge, Monseigneur Ito a fait analyser ses larmes dans un laboratoire scientifique à Niigata, et il fut déterminé que le sang apparu sur les mains de la Sainte Vierge appartenait au groupe B, et que les larmes appartenaient au groupe AB. Donc déjà, ce n'est pas la même personne. Donc, bon, vous verrez pourquoi plus tard, je ferai quelques commentaires là-dessus. Il y a eu de très nombreuses commissions d'enquête demandées par Mgr Ito, qui ont étudié scientifiquement en détail tous ces points, les larmes, le sang, bon. Les lacrymations se sont produites en tout 101 fois, entre le 4 janvier 1975 et le 15 septembre 1981. Alors, 101 fois, pourquoi ? L'ange gardien qui régulièrement apparaissait à sœur Agnès lui a dit « Il y a une signification au chiffre 101 des 101 lacrymations. Il signifie que le péché est entré dans le monde par une femme et que c'est aussi par une femme que le salut est venu dans le monde. Et le zéro qui est entre les deux, qui est entre les deux 1, signifie le Dieu éternel qui est depuis toute éternité et pour toute l'éternité. Le premier 1 représente Ève et le dernier la Vierge Marie. »
Donc on a ces lacrymations, on voit vraiment des larmes qui coulent du corps de la Vierge Marie ou du corps à travers cette statue de Notre-Dame des Peuples d'Amsterdam.
Oui.
Et donc, quelle est la réaction de la communauté face à ces pleurs qui dévalent sur cette statue ?
Bah, comme vous le verrez, les réactions ont été très diverses. Il y a Mgr Itton qui a été, et un certain nombre d'autres, qui ont été extrêmement réceptifs, hein, puisqu'il a fini par émettre une lettre apostolique dans laquelle il a autorisé le culte de la Notre-Dame de Dakita. Mais il y a un certain nombre de membres du clergé japonais qui étaient foncièrement opposés à tous ces événements et qui considéraient en fait qui considéraient que Sœur Agnès était une psychopathe qui ont fait tout pour faire en sorte que tout cela n'arrive pas, pour qu'on n'y ait aucun culte, qu'on ne tienne pas compte de ce qui se passait, quoi. Alors, pour revenir aux lacrymations, il y a quand même un passage de la Genèse qui suggère que le combat qui oppose Marie à Satan durera jusqu'à la fin du monde. Hein, Marie ne mène pas seule le combat, elle est associée au corps mystique du Christ, en union avec tous les croyants. Donc, à Akita, Marie appelle notre attention et sollicite notre coopération à tous, à l'œuvre du salut, par un engagement profond. Et elle a insisté sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, le 25 mars 1982, alors on est un petit peu après, quoi, hein, l'ange gardien annonce à Sœur Sasagawa qu'elle va guérir de sa surdité totale. Et la surdité disparaît le jour de la Pentecôte, 1982, le 30 mai 1982. Alors, pour revenir maintenant, alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de tous ces phénomènes ? À Akita, bon, il me semble que la Sainte Vierge sollicite notre coopération à l'œuvre du salut par un engagement plus profond. Les engagements de la Sainte Vierge sont exactement les mêmes qu'à Fatima, à mon avis. Elles sont un avertissement à l'humanité en danger de destruction. Alors, la reconnaissance par Rome en 2013 a beaucoup encouragé les sœurs, parce que cet événement très important faisait suite aux multiples démarches et études faites, en particulier au Japon. Mgr Itton avait reconnu officiellement le 22 avril 1984, dans une lettre pastorale, le caractère surnaturel d'une série d'événements inexplicables survenus à Yuzawadai. Il autorisait la vénération de Notre-Dame d'Akita. Et en juin 1988, Mgr Ratzinger, futur pape Benoît XVI, déclarait les événements d'Akita dignes d'être crus par les fidèles. La Renaissance par Rome en 2013 confirmait donc les efforts déployés tant au Japon qu'à Rome.
Amis auditeurs, ne restons pas sourds à cet appel de la Vierge Marie à la conversion. Voyons cette mère qui pleure sur le monde, qui pleure sur nos péchés, et convertissons-nous. Nous avons vu les nombreux parallèles entre Akita et entre Fatima. Il y a également des parallèles à faire entre Akita et les apparitions de Garabandal. Amis auditeurs, merci pour votre fidélité. Merci de rester avec nous toujours. Vous pouvez bien évidemment retrouver le podcast. Je remercie Hubert de Mestier d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Je vous dis à la semaine prochaine, amis auditeurs, et d'ici là, que la paix soit avec vous.